CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour ! Bon, vous en avez sans doute entendu parler, tout le monde s'y précipite, c'est à Paris que ça se passe, ça s'appelle le salon de l'agriculture, les Parisiens découvrent que y a des vaches qui finissent et des veaux et des chevaux, enfin avec la forme que ça a, l'odeur que ça a aussi, pas mal. Et à ce salon de l'agriculture, il y a aussi un concours général des vins. Et donc,
De tout, ça fait pas que les vins, ça fait les fromages, le concours général agricole.
Le concours général agricole, mais des vins aussi du coup.
Ah bah du coup des vins.
Parce que nous on va quand même un peu se pencher là-dessus aujourd'hui, on va pas faire le concours de la grosse vache par exemple, ça nous intéresse pas.
Là, il y en aurait. Hein.
Ou le concours de l'âne.
Il y en aurait aussi.
Non, nous, ce qui va nous intéresser, en fait, eh bien, au travers de ce concours de vin, c'est de donner la parole à notre partenaire, qui est Vinovali, pour eh bien qu'il puisse nous présenter, nous faire déguster les vins qui ont eu...
Le contrat est renégocié ou pas ?
Des médailles. Ah ben ça, justement, on en parle après.
Après, d'accord. Ouais, parce que là,
on verra ça.
La cave est vide.
Bonjour Pascal Olivier.
Salut à tous.
Comment ça va ?
Ça va impeccable.
Un programme pour toi aujourd'hui ?
Eh bien, on va parler de gastrolâtrie. On va se demander si nous sommes des gastrolâtres.
Eh bien...
Et puis, il y aura peut-être une petite recette si on a le temps.
C'est une maladie.
C'est élégant.
Non, c'est pas une maladie du tout. Vous découvrirez ce que c'est. Et puis, on va présenter la cave de Rabastens. Parce que ce sont nos invités.
Bonjour Georges Bonfils.
Bonjour, ce soir j'ai choisi des musiciens régionaux, Triple Scotch, un trio de Toulouse qui joue depuis une vingtaine d'années avec quelques périodes de stand-by. Et puis là nous aurons Thierry Ollet, le chef d'orchestre, qui nous parlera un petit peu de cet enregistrement.
Pianiste, hein ?
Pianiste.
C'est ça.
Thierry Ollet.
De son oeuvre. Ouais, Thierry Ollet.
Qui nous fait la recette,
De Riolet.
Voilà, ouais. Christophe, bonjour.
Bonsoir à tous. Moi, je vous parle d'un nouveau magazine qui s'appelle Gonzaï, qui est sorti le mois dernier. Et on va écouter une double compile d'un duo mythique des années 80-90, Hurricane. Et je vous amène une petite bouteille pour une dégustation à l'aveugle aussi.
Ah,
c'est bien, justement.
Mais qu'est-ce que c'est
vous
que
en
ça
pensez? Je vous expliquerai pourquoi après je fais ça.
Alors tu sais qu'on a un œnologue avec nous ce soir.
Ça tombe très très bien.
Un vrai de vrai. Bonjour, pardon, on s'est à peine croisés, du coup je ne sais pas votre nom ni votre prénom.
Bonsoir, c'est Jean-Noël Barraud.
Bonjour Jean-Noël.
Œnologue de la cave de Rabastens.
Merci d'être là ce soir, accompagné de...
D'Ingrid.
Bonjour Ingrid. Pardon, ça va ?
Rescapé de l'industrie pharmaceutique.
Ah oui.
Ça s'était resté dans les annales.
Ça m'est resté, je
vois. Ah oui.
On avait fait connaissance lors d'une émission à la cave de Cahors pour le festival.
Elle était même venue avant. Ça fait
pour le festival.
J'étais venue avec Xavier Briouin.
Oui,
ouais, d'accord.
Donc à une émission ici.
Ouais, mais c'est parce qu'à chaque fois vous amenez de l'astrolabe et alors l'astrolabe à 14 degrés, moi des fois après j'oublie. Allez, c'est qu'est-ce qu'on déguste et ça commence comme ça. Eh oui, j'ai ma page qui s'est fermée avec vos noms dessus.
Ces matins qui toujours reviennent, je ne reconnais rien, ni la pièce, ni même la fille qui dort au bord du lit, et j'ai un peu peur d'en avoir trop dit. Faut-il pleurer, faut-il crier, je ne peux m'empêcher d'hésiter, alors je préfère ne rien tenter. Trottoir étroit, et puis tous ces gens qui ne parlent que de moi. Quel est le nom de ce pays et quelle est cette ville? Pourquoi suis-je ici? Faut-il courir? Faut-il hurler? Je n'en sais rien. Autant m'en aller, fermer la porte et ne rien penser. Les portes des maisons sont fermées et les rues se vident, mon corps est glacé. Je voudrais juste une tasse de thé. Je voudrais quelqu'un à qui raconter mon histoire, mais de toute façon je m'en souviens plus. Alors à quoi bon? Sur la route il y aura des visions.
Une pensée pour Daniel Darc, un chanteur que j'affectionnais particulièrement et qui nous a malheureusement quitté hier. On a appris la mauvaise nouvelle ce matin.
C'était le frère de Mireille Darc.
Non, pas du tout, aucun rapport. Et c'était vraiment le plus rock'n'roll des chanteurs
français.
C'était
assez barré.
Avec
hein,
une vie rock'n'roll, malheureusement, qui aboutit.
Très très barré dans l'écriture. D'ailleurs, il était sur le point de sortir un nouvel album, il me semble. Hein,
oui,
j'avais entendu
il était
ça,
en train d'écrire aussi son autobiographie.
Ouais.
Bon, malheureusement.
Inachevé.
Ah ben, ça sera une inachevée, c'est clair. Jean-Noël Barrault et Ingrid Dossat de chez Vinovali, la cave de Rabastens, sont nos invités ce soir. Ils sont venus les bras chargés de bonnes bouteilles qui ont toutes reçu des médailles au concours général des vins de Paris. C'est ça, Pascal ?
Tout à fait, oui, il y a eu beaucoup beaucoup de médailles, mais alors on va peut-être présenter d'abord la cave de Rabastens. D'après leur site, il y a 150 vignerons, 1200 hectares de vignes. Ce sont les créateurs de Tarani, de l'Astrolabe, et du célébrissime Rosé Piscine.
Oui, c'est
ça. Et Rabastens, c'est une terre de vignerons depuis l'Antiquité. C'est un des plus vieux vignobles de France. Rabastens, c'est aussi la patrie d'Auger Gaillard, Lou Roudier de Rabastens, qui était un poète troubadour et charron, qui se dit donc Roudier. Il est né à Rabastens vers 1530. Il a été réfugié un temps à Montauban en 1567 pendant la Deuxième Guerre de Religion, à l'invitation du seigneur de Monclar et du seigneur de Montbetou. Il est arrivé là et parce qu'il était protestant, donc il est venu se réfugier dans la bastide de Montauban. Rabastens aussi, c'est une grande bastide du sud-ouest. Auger Gaillard, il a notamment chanté avec ferveur et avec éloge le vin de sa région. Il disait « Ah, l'Ubumbi d'Albigès, le bon vin d'Albi, de l'Albigeois ». Il disait aussi «
L'Ubun
laine de l'œil, si ». Louboun Mozac, si. Louboun Servaudou, si. Per contra, l'Urruzado Pisanau, non. Et donc, en 1567, déjà, le rosé piscine ne recueillait pas l'Urruzado Pisanau. Alors, c'est le rosé piscine. Non, déjà, ça recueillait pas les ferveurs des amateurs de vin. Par contre, des buveurs de tout poil autour de la piscine avec rempli de glaçons. Là, ça marche bien et on est très content de les avoir. Bien que ce breuvage, on arrive quand même pas à le boire ici.
On a entendu les trois cépages qui
mais
font...
Oui, le loin de l'œil, le mozac, le fer servadou.
Ou le brocol.
Ou le brocol aussi.
Un fer servadou ou brocol.
Oui. Le bon servadou, il disait. Le bon servadou. Des Rabastens.
D'accord.
Et donc, bon, ben, les médailles de la cave. Alors, moi, j'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils me disent qu'il y en a beaucoup plus. Alors, elles sont peut-être cachées.
Non, 9 ou 10 sur Rabastens et une vingtaine sur l'ensemble de
Vinovali. Ah oui, sur l'ensemble de Vinovali. Moi, je n'ai compté que de Rabastens.
Il faut rappeler que la cave de Rabastens, c'est quand même membre de l'Union Vinovali, qui est une union de 4 caves du sud-ouest.
Les 9 médailles, ce n'est uniquement que les vignerons de Rabastens, alors avec du rouge, avec du... Et médaille d'or, 3 médailles d'or pour le rosé AOC Gaillac 2012, blanc, le premium de Rambeau que j'ai vu passer par là, donc on va pouvoir peut-être aussi le goûter, et encore une médaille d'or en IGP Côte du Tarn, parce que il joue sur plein de tableaux, il joue sur l'AOC Gaillac, il joue sur l'IGP Comté Tolosan, et il joue sur l'IGP Côte du Tarn. Ils sont bien bien placés, là, ils peuvent truster, pour peu qu'ils s'achètent des vignes du côté de Fronton, ils vont leur piquer des médailles, enfin, etc. Vous faites pas de Bordeaux encore.
Non.
Pas encore. Pas encore, mais ça va venir.
Vinovali, cave de Técou, de Rabastens,
de Côte
d'Olt et
Fronton.
Voilà, c'est ça. Vinovali, c'est notre partenaire, vous l'entendez à chaque fois au début de Qu'est-ce qu'on déguste, tu l'as pas mis ? Il faut le mettre, hein, parce que sinon ils vont nous taper sur les
doigts. Bien sûr qu'il était là, c'est le contrat.
Attention. C'est important pour la commercialisation, au moment de la commercialisation des vins, de pouvoir coller dessus la petite étiquette médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent. Ingrid,
ça amène vraiment un plus. Ça amène vraiment un plus d'avoir une médaille. C'est vrai que le consommateur aujourd'hui est en quête de code de réassurance.
Ouais.
Et le fait, voilà, c'est vraiment d'actualité d'ailleurs. Et donc effectivement, le fait d'avoir des médailles, eh ben, ça rassure et voilà, c'est voté par un jury qui est expert en la matière et du coup, le consommateur regarde énormément ce type de code.
Question, puisqu'on parle de ces médailles, par exemple, j'ai trouvé là où vous avez eu deux médailles d'or. Bon, pour le Gaillac 2012 rosé et le Blanc 2012 toujours en Gaillac, il y a deux médailles d'or. Alors vous en avez une, et puis après par exemple dans le Blanc, c'est l'autre médaille d'or, c'est le domaine Rottier. La cave de, je crois, la Bassise de Lévis en rosé a aussi une médaille d'or. Alors moi, un truc que je comprends pas, c'est dans un concours, il y a un premier, un deuxième, un troisième.
Trop de médailles d'or, tu l'as.
Il y a pas trois. Alors en Fronton, c'est pire parce qu'en Fronton, il y a quatre médailles d'or. Donc ça correspond à quoi? Est-ce que c'est pas galvaudé un petit peu ce genre de distribution
en fait,
de médailles?
En fait, la logique d'un concours, c'est de récompenser des produits et en fait il y a un nombre de médailles à distribuer. Alors qu'elles soient d'or, d'argent ou de bronze, il y a un nombre limité à distribuer et c'est le jury de dégustateurs qui va juger si ça mérite de l'or, de l'argent, du bronze. Il y a des catégories, vous verrez aussi sur le palmarès où il n'y a pas de médaille d'or. On commence directement à l'argent.
À l'argent.
Où il y a que bronze. Voilà. Mmh. Ben, c'est juste ça, c'est le jury qui est maître de sa décision et qui, s'il estime juste et justifié de par la dégustation, peut n'attribuer que des médailles d'or.
Voilà. D'accord.
Ah oui, il peut y avoir quatre médailles d'or sur un concours, par exemple, sur une année, un millésime, une cuvée, etc.
Georges, qui forme le jury de ce genre de concours à Paris? Parce que à Castelsarrasin, on sait, nous, on en a fait partie.
Ouais.
Donc ça peut être un peu tout le monde, hein. Parce que nous, on a goûté des vins à 10h du matin, c'est levé tôt.
Ah bon, on se croisera, alors.
Après une nuit.
Alors on n'y va plus, parce que la dernière fois, ils nous ont calé en du Bordeaux blanc. Infect. Mais infect. On s'est ruiné la bouche et on n'y va plus.
Non mais voilà, c'est pas forcément toujours dans les petits villages, dans les petits concours, c'est pas forcément toujours des gens super compétents.
Non, sur un concours, il y a la particularité de Paris, c'est que c'est déjà un concours qui est très très lisible pour tout le monde et qui parle. C'est vraiment un gage de.
Est-ce qu'on peut avoir un peu de qualité
et de sérieux? Le concours de Paris, en principe, il y a toujours des professionnels et des consommateurs.
Est-ce qu'il y a une présélection d'abord sur le terroir ou pas, où on envoie les échantillons qu'on veut?
Merci.
Ah, le producteur envoie les échantillons qu'il veut. Il y a un maximum d'échantillons à respecter. On peut pas envoyer 50 échantillons.
Mais est-ce qu'il y a une présélection au niveau de l'appellation?
Oui, il y a une présélection au niveau de la.
Ce qui se fait aussi à Fronton.
Exact. Voilà. Toutes les appellations, en fait, ont une présélection avant le concours de Paris pour faire monter ce que les professionnels locaux estiment avoir le niveau minimum et nécessaire pour aller.
Oui, c'est valable aussi pour le guide Hachette.
Oui, c'est ça. Ben, globalement, dans les concours historiques dans le monde du vin, c'est comme ça. Aujourd'hui, après, il y a d'autres concours qui sont un peu plus ouverts avec moins de limites et moins de contraintes. Oui, exactement.
Qu'est-ce qu'on boit là? Hop. C'est de l'astrolabe ça, non?
Mais ça c'est pas médaillé apparemment.
Et ça c'est pas médaillé. Si? Il y a une petite étiquette dessus. Qu'est-ce que c'est alors?
Hop. Médaillé au concours des vins du Sud-Ouest.
Ah ben à Castel.
Non,
à Toulouse.
À Toulouse,
le concours des vins du Sud-Ouest à Toulouse. Or en 2011.
De l'an passé.
L'an passé, voilà.
Et du coup, vous l'avez pas eu à Paris celui-là?
Non, celui-ci n'a pas été distingué.
Il n'y a pas eu d'Astrolabe distingué cette année. C'est un peu votre, c'est un peu le fer de lance quand même l'Astrolabe.
En tout cas, c'est notre voilà, c'est notre marque transversale et en haut de gamme. Donc après, on n'a pas encore eu les résultats des autres concours, hein, concours de Mâcon par exemple, concours des vins aussi de Lyon, etc., etc.
Combien de concours en fait vous faites en tout? Parce que du coup, ça vous permet de coller plein d'étiquettes.
Parce que vous représentez un vin qui a été médaille d'or à Paris. Est-ce que vous allez le repasser dans un autre concours pour avoir une autre médaille ou quoi?
C'est pas nécessaire.
On peut, mais c'est pas obligatoire. Ça dépend de la. Ouais. Un vin médaillé à Paris, en principe, a un gage d'assurance en termes de médaille qui est la meilleure lisibilité possible. Donc le concours de Paris, c'est celui qui est le plus intéressant. Enfin, on parle du vin, mais comme toutes les autres productions, hein, c'est le concours de Paris a vraiment une.
Et c'est une le premier aura. Concours, c'est celui qui fait un peu notoriété, référence.
Référence, voilà,
c'est ça. Et c'est vraiment donc un vin médaillé à Paris, en principe. Mâcon, voilà, Paris, Mâcon sont des concours de renommée, on va dire nationale, voire internationale, et surtout historiquement reconnus et réputés.
Mais Ingrid n'a pas de verre, son verre est là. On va pas lui laisser la crépine à sec.
On est des couleurs. Déjà.
On a perdu la bouteille, on a perdu les verres.
Qu'est-ce que c'est que... Alors, donc, petite présentation de ce vin par l'œnologue de la cave de Rabastens, Jean-Noël Barraud, avant de donner la parole à Georges, parce que Georges, ça va être la première chronique jazz dans un instant.
Ben ça, là, on goûte donc l'Astrolabe blanc du millésime dernier, donc pas le dernier, le millésime 2011, qui est 100% loin de l'œil, donc cépage historique et particulier et typique de l'appellation Gaillac. Donc c'est un vin qui est élaboré avec une technique particulière au niveau du vignoble, ce qu'on appelle le passerillage en souche, qui est une technique en fait qui permet de concentrer le raisin sur la souche et de maîtriser ainsi et le rendement et le niveau d'alcool et surtout l'équilibre acide. Parce que le but sur ce vin-là est d'obtenir un équilibre acide avec beaucoup de gras, et donc supporté par cet équilibre. C'est le plus ancien des Astrolabes, c'est celui que la cave de Rabastens et que Vinovali a créé en premier, qui a lancé un petit peu la gamme Astrolabe et qui est assez régulier en termes de qualité, et qui comme les autres vins d'Astrolabe est identifié à travers un cépage. Donc là, le loin de l'œil. Voilà.
La philosophie de l'Astrolabe, qu'est-ce que c'est exactement? On t'y rappelle?
Alors la philosophie de l'Astrolabe, déjà ça vient effectivement de un peu l'historique autour du bateau
de
la Pérouse. Voilà. Donc c'est le concept, c'est tout simplement de voyager à travers nos territoires à travers les territoires, donc nos cépages autochtones. Donc à savoir le loin de l'œil, le Malbec pour l'appellation Cahors, la Négrette pour l'appellation Fronton et donc le Brocol aussi sur l'appellation Gaillac.
Donc chaque cave se partage un cépage de la gamme Astrolabe.
Je dirais que c'est que des monocépages.
C'est que des monocépages, oui, tout à fait. Et c'est chez nous en tout cas la crème de tout ce qu'on peut faire au niveau de nos trois appellations.
Tiens, remets-moi un peu de crème. Oh, je blague, trinque.
Je vais te traîner.
Santé.
Ce soir, j'ai sélectionné pour vous un groupe jazz qui est de Toulouse qui s'appelle Triple Scotch. Comme Triple Scotch, bon, on le trouve plutôt dans les boîtes de nuit ou dans les bars. Donc, ils font une musique dans une ambiance, une musique de cocktail, et avec la particularité de travailler un petit peu des thèmes qui sont de la variété. Ce qu'auraient dû faire déjà les musiciens de jazz depuis longtemps. Bon, ils reprennent des morceaux des Beatles. Ils vont reprendre Sunny, ils vont prendre le Lay My Fire des Doors. Après, bon, des tubes de
YouTube, voilà.
Blowing the Wind, Bob Dylan, etc. Donc le premier thème que nous écoutons, c'est Can't Buy Me Love de Lennon McCartney, et qui est joué plus en blues avec beaucoup de drive. Love me too. I may not have a lot to give, but I gotta give to you. I don't care too much money. Money can't buy me love. Can't buy me love. Everybody tells me so. Can't buy me love. No, 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 no. Say don't need no diamond ring, and I'll be satisfied.
tell me that you want this kind of things that money just can buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Can buy me love. Can buy me love. Juice bomb do da bubble do do rub and line. Just got do the bobby doo ba do be boo and the line and boo and no. Just sub do be do ba do dee ba do dum ba do no. Warm and no. Such a road to be the long desert of a chamber of mind is a moment that will fool me in the field.
Le trio swing en tiriolé avec Serge Oustakine à la basse et au chant et Bernard Lara à la guitare.
Je reviens sur cette histoire, Ingrid, de médailles. Commercialement, est-ce que on a un tableau, une sorte de règle de trois qui dit une médaille d'or, j'en vends, je sais pas, 20% de plus, une médaille d'argent, j'en vends 15% de plus, une médaille de bronze, 10% de plus.
On n'a pas de tableau spécifique pour mesurer en pourcentage ce que ça peut représenter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir la médaille, ça va booster. Booster les ventes, voilà. Après, est-ce que c'est 50%, est-ce que c'est 20%, je vous avoue qu'on ne l'a pas calculé.
Non, il n'y a pas un calcul.
Ça dépend du lot.
Le concours, ça dépend du concours aussi.
Oui, tout à fait.
Mais le blanc premium de Rainbow, c'est 80 hectolitres. Et donc ça, c'est le blanc doux.
Oui.
Qui a une médaille d'or. Il y a 80 hectolitres. 80 hectolitres, donc ça fait 8000 litres. Litres, ça va faire, vous allez faire 10 000 bouteilles avec ça. Donc vous allez commander 10 000 médailles, 10 000 étiquettes. Ouais. 10 000 étiquettes.
Mais par contre. C'est par bouteille ou c'est en. C'est pas une barrique qui...
Non, c'est un lot, une contenance. Par exemple, voilà. le Tarani qui a été médaille d'argent, c'est 9 500 hectolitres. Le Tarani qui a été aussi médaille d'argent en blanc 2012, c'est 4 197 hectolitres. C'est un lot.
C'est un assemblage. Voilà.
Un assemblage. Bon, il y en a 4197 hectolitres, donc ça fait 100 000 bouteilles.
Vous mettez ça dans une bouteille et vous leur envoyez la bouteille. C'est le principe.
On n'envoie pas la cuve.
Oui, c'est ça.
Ou la barrique.
Enfin, vous pouvez, ici, par exemple, on a une bouteille qui est une bouteille d'échantillon.
Tout à fait.
Ça, c'est pas une bouteille commerciale.
Ah,
ça...
tu la mettras en photo sur le site. Voilà.
Parce qu'effectivement, par exemple, ici, on a, c'est passion, c'est l'assemblage de passion. Qui est en appellation Gaillac et qui est vinifié à la cave de Técou. Et ici, donc, on a un échantillon puisque le vin n'a pas encore été mis en bouteille.
D'accord, donc on a une petite étiquette, comme les bébés quand ils naissent.
Voilà,
exactement.
Bah, vous savez, les concours se font tôt en saison, hein, on vendange sur septembre-octobre. Les concours commencent, on commence à envoyer et à s'inscrire à des concours à partir de janvier-février, donc les vins ne sont pas forcément tous terminés. Et ils sont surtout loin d'être, enfin, je dis terminés en termes d'élevage, après ils sont surtout loin d'être mis en bouteille.
Oui.
Donc en fait, ben, les gens viennent prélever, enfin, les organisateurs des concours ou les ODG ou les professionnels locaux viennent prélever dans les caves pour faire monter les cuves en fait, ou les barriques, ou peu importe, mais un échantillon de ces cuves dans les différents concours, notamment à Paris, où la gestion est vraiment comme ça.
Mais alors quand le vin est au concours, il est pas fini en fait. Est-ce que les juges en tiennent compte de ça, disent bah il est pas encore.
Ah, il est pas fini, il est pas forcément en bouteille commerciale.
Non mais il est fini d'être élevé quand même ou.
Ça dépend des vins. Ouais. Quand vous avez des vins élevés en fût sur des millésimes récents, on peut considérer que le vin n'est pas fini. C'est l'éternel débat qu'il y a au sein entre professionnels pour savoir si le vin qu'on goûte 2 ans après avait la médaille d'or de 2 ans avant, forcément c'est pas le même.
Ouais.
Donc le vin est goûté à un instant T, à un moment donné.
À un moment donné, le vin est goûté.
Comment on a l'accent, hein.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite après ça?
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite? Au programme de cette prochaine demi-heure, tiens, on va faire connaissance avec Jean-Noël Barrault. On va voir un peu qu'est-ce qui, dans son parcours, l'a amené à devenir le directeur produit de la cave de Rabastens. Parce que si vous prenez le train en marche, sachez que ce soir, grâce à Ingrid Dossat et à Jean-Noël Barrault, eh bien, on déguste des vins de chez Vinovali, pas que de la cave de Rabastens.
Hein.
Técou, Côte d'Olt, Fronton, voilà, je crois que j'ai tout dit.
Hein. Non,
il en manque une. Parce que voilà, il y a le concours général des vins de Paris qui a distribué des médailles. Il y a des médailles d'or, il y a des médailles d'argent, il y a des médailles de bronze. Tout cela est sur notre table ici, dans les studios de CFM Radio, avec Pascal Olivier, Georges Bonfils, Christophe, Aurélien est à la technique. On se porte plutôt pas trop mal.
On est bien.
On est pas mal. On discutera aussi avec Thierry Ollet tout à l'heure, qui est le pianiste du groupe Triple Scotch. On voit bien quand même que le mec il boit pas que de la flotte là non plus, hein, le jazzman. Et puis voilà. Et puis alors on mange de très très bonnes
charcutailles
de chez Monsieur Echevarne.
Une saucisse sèche comme d'habitude.
Qu'est-ce que c'est bien.
Qui est parfaite.
Qu'est-ce qui travaille
bien
celui-là.
Un jambon de coche de l'Aveyron. Mmh. Là vraiment, c'est
pas
goûteux.
Mal. On est pas mal du tout.
On part au Mexique, l'ami.
Oh yes.
Avec Rodrigo et Gabriella.
Rodrigo.
Accueil du cœur.
Rodriguez.
Olé.
Gin alors. Et on a qu'à boire de l'Inès.
Allez. Ah non.
suivant, ce bon vin de l'Inès.
Inès, pas Inès.
Mais en espagnol, qui a la tilta.
Ah,
tu devrais savoir.
Hola, hola, hombre.
Señor Toruela.
Oh, Rodrigo et Gabriela, Diablo Rojo, la Jota.
Magnifique.
Ah, Jean-Noël Barrault, pour son baptême à Qu'est-ce qu'on déguste, se demande dans quelle émission de fou il a pu tomber. Il vient de voir Pascal Olivier rincer son verre au fond de son goulot, parce qu'il y avait un fond d'Inès qu'il a mélangé allègrement avec un bout de Tarani. Il a secoué, et puis plutôt que de jeter, parce que nous on ne jette rien, on a fait la guerre, monsieur. Alors il a balancé ça au fond de son gosier. Mais ça n'a pas touché ni sa langue, ni ses muqueuses, ni rien. Ça ne l'a pas salopé du tout,
direct,
tu vois.
Direct.
Qu'est-ce qui vous a amené, Jean-Noël Barrault, à faire le métier que vous faites aujourd'hui, donc œnologue et directeur produit à la cave de Rabastens?
Ah, juste avant ça, quand même, il m'a l'air d'être un roi des assemblages, donc si les prochaines vendanges, il a 5 minutes, on le prendra chez nous pour assembler quelques...
J'ai fait un assemblage, au Château Saint-Louis, et ben, à Fronton. Et ben, on a eu une médaille d'or.
Et bien, rendez-vous au prochain vendage, alors.
Oui,
non, moi, ce qui m'a amené à faire ça, c'est, en fait, mon père est œnologue. Et bien que je m'étais juré, quand j'étais plus jeune, de ne jamais travailler dans le vin, il s'est avéré qu'après des études d'ingénieur, et bien, j'ai choisi une spécialisation, en viticulture œnologie. Et j'ai fait, en fait, moi, mon diplôme d'œnologie sur le Tarn. Toulouse, en fait, et sur le Tarn, puisque j'étais déjà en poste et que j'ai complété mon cursus avec un diplôme d'œnologue, mais c'était pas en formation initiale, voilà. Mais c'est, après, le vin chez moi, c'est une passion, dans ma famille, c'est une passion. Mon père, en fait, était l'ancien directeur de la cave de Saint-Sardos, qui est une petite cave du coin.
Ouais.
Il est maintenant à la retraite, et donc on a toujours apprécié le vin dans la famille. Ça faisait partie des sujets de discussion et des grands moments conviviaux.
Et pourquoi alors au départ vous vous êtes dit non, je ferai pas ça?
En fait, c'est parce qu'on a envie de, on n'a pas envie de forcément de faire pareil que son père ou que sa mère quand on est enfant. Mais voilà, après moi ça me plaît vraiment, c'est un métier qui est passionnant, on le fait avec plaisir, on essaye de le faire avec vraiment beaucoup d'envie et de volonté et de dynamisme. C'est ce qui caractérise d'ailleurs pas mal le groupe Vinovali, moi je pense, et on essaye, j'espère surtout que les gens boivent les vins avec autant de plaisir qu'on a de les faire, parce que c'est un métier qui est compliqué, mais c'est un métier qui est vraiment passionnant et qui prend beaucoup de temps sur la vie, en fait.
Et est-ce qu'il faut avoir vraiment un background d'ingénieur, c'est-à-dire des études scientifiques, des choses comme ça, pour
travailler
dans le vin, pour faire œnologue?
Non, pas forcément. Après, le métier d'œnologue dans des structures comme Vinovali ou le métier d'œnologue d'un consultant, il y a plein de métiers d'œnologue différents, en fait. Chaque taille d'entreprise a des missions particulières affiliées à des œnologues. C'est pour ça d'ailleurs que nous on a le titre de directeur produit au sein des caves, parce qu'on n'est pas que œnologue, on a d'autres missions transversales et d'autres responsabilités. Mais en fait, sur Vinovali, donc il y a quatre principaux œnologues un œnologue dans chacune des caves principales. Chacun n'a pas forcément les mêmes missions, ça dépend de son parcours, de son cursus
et c'est quoi votre mission à vous?
Ah ben, la mission aujourd'hui de moi personnellement, c'est de faire les vins bien sûr, d'assurer les assemblages, et puis après il y a toute une partie de gestion technique globale, de gestion humaine et organisationnelle, avec une propension à construire Vinovali tous ensemble, puisque c'est quand même un groupe jeune, donc il faut s'appuyer sur les forces vives de chacune des entreprises.
Et est-ce que tu fais du vin selon les recommandations du service marketing, en disant fais-nous un truc comme ça marche à fond?
Ça c'est la grande mutation des œnologues d'aujourd'hui. L'œnologue aujourd'hui fait dans les structures comme les nôtres, il fait pas le vin qu'il veut, il fait le vin qui se vend.
Voilà, c'est ça.
Alors après ce sont des grands débats philosophiques qui sont pas forcément super constructifs ni très intéressants, mais c'est important aujourd'hui de comprendre que c'est le consommateur qui choisit, et alors après c'est pareil, c'est un grand débat tout ça. Mais dans tous les cas, ce qui est vrai, c'est que l'œnologue aujourd'hui ne doit pas faire le vin qu'il veut. Il doit faire le vin qui se vend, surtout quand il fait des gros volumes, voilà.
Et
oui, parce qu'il y a 120 comparateurs derrière.
Il y a la mission principale, de Vino Valley, comme d'ailleurs toutes les autres structures coopératives de France et de Navarre, c'est de faire vivre l'activité viticole et de faire vivre les producteurs et les vignerons. Donc il faut effectivement vendre le vin.
Parce que faire des assemblages, Là, j'ai un Tarani millésime 2012, c'est monocépage. Tout à l'heure, on a bu de l'Inès, c'est que de la négrette. Après, on a bu de l'Astrolabe, c'est que du loin de l'œil.
Ouais.
Non, mais vous vous moquez.
L'Inès, c'est un assemblage.
Non, goûtons alors le Passion ou le Château d'Escabe ou d'autres châteaux et on verra que non, effectivement sur des blancs c'est souvent plus simple de faire des monocépages, notamment sur le Tarani blanc en Sauvignon qui est un cépage qui a des caractéristiques aromatiques très particulières. Après sur l'Inès c'est pas monocépage, hein, voilà.
Parlons-en de l'Inès un petit peu, parce que quand même médaillé là aussi, médaille d'or, ce petit vin rosé acidulé qui est dans la ligne droite quand tu parlais aujourd'hui de faire un vin qui plaît. Vous m'arrêtez si je me trompe, Ingrid, mais on est dans le vin pour la clientèle féminine, oui. Hein, pour capter de la clientèle féminine et jeune. Permettre de faire des apéros avec du vin qui est quand même acidulé, sucré, c'est ça hein, l'idée. Hein.
Oui, puis on peut regarder. Enfin, on est à la radio, donc on peut pas voir, mais effectivement.
Oui, là, sur le site, qu'est-ce qu'on déguste.
La couleur du vin, on a eu une tendance clairement aujourd'hui où il y a une tendance sur les vins rosés clairs. Et effectivement, au niveau de la vinification, c'est un soin qui est apporté tout particulier à justement extraire le vin pour qu'il soit clair.
Ouh, Georgette, il a la même couleur que mon vernis à ongles. Prends-moi une caisse.
Et donc là, on est sur un assemblage, pardon.
Ingrid, ne vous excusez pas parce que je remue les bras pour faire signe à Aurélien de lancer un jingle.
Un chef d'orchestre.
Voilà, c'est ça.
Excusez-moi,
c'était juste pour reprendre un petit peu de Tarani, tiens, au passage. Tarani, c'est un peu comme Astrolabe, hein. C'est une gamme, donc, qui traverse, en fait, toutes les caves de Vino Valley. C'est pareil, c'est toujours monocépage, là, où il peut y avoir des assemblages. Parce que moi, j'ai goûté des Tarani qui, parfois, m'étaient difficiles, très boisés, par exemple. Vraiment très, très boisés à des moments. C'est possible, ça? Je me trompe.
Le rouge.
Ouais,
très boisé, ben ça dépend des perceptions de chacun. C'est un vin effectivement, le Tarani rouge, qui a des composantes boisées. Et la principale caractéristique du Tarani et la difficulté du Tarani pour l'onologue et pour celui qui le fait, c'est en fait de réussir à faire un produit qui est stable et régulier d'une année sur l'autre. Donc c'est effectivement le plus compliqué.
Ce qui est le contraire du vin, du vrai vin.
Le vrai vin, la définition du vrai vin est compliquée à donner. Le principal atout de l'homme dans la vinification, c'est de maîtriser le millésime et d'extraire la quintessence du millésime. Ça, je dirais, c'est plutôt la vraie définition de la.
Alors le vrai vin. Alors entre guillemets, stop parenthèse. Le vrai vin, il a la gueule de l'endroit.
Pas le gibolin.
Non, la gueule de l'endroit et de l'année et la gueule du vigneron.
Oui et non. Alors après, c'est oui, vous avez raison d'un côté, tort de l'autre, parce que l'intérêt aussi, quand on lance une marque, si vous avez un vin qui est... Vous parliez des couleurs tout à l'heure, si vous avez un rosé qui est très clair une année et qui est très foncé...
Foncé une autre année, le gars, l'année dernière, je l'ai pris, il m'a plu, cette année, voilà. Je prends pas...
Et là, on ne parle que de la couleur. Et donc forcément, il y a des années où les couleurs s'extraient beaucoup plus facilement que d'autres, donc il y a quand même... Le but du vinificateur, c'est de maîtriser quand même la matière. Et en maîtrisant la matière, c'est de réussir à faire un produit qui... pas forcément qui se ressemble, mais dans lequel, en tout cas, on retrouve des choses qu'on a aimées, et ça, à travers les années. Mmh. Après, les millésimes, forcément, ils y est chaque année.
Mais moi, je trouve que c'est agréable quand tu es invité chez quelqu'un et que tu dois amener une bouteille de pif, d'être sûr de pas te tromper quand tu vas poser le vin sur la table et de savoir que c'est même que t'as apporté il y a 6 mois à un autre repas et que t'avais fait sensation avec ton petit vin. Et c'est quand même bien de refaire sensation à ce moment-là. Si là, il a complètement changé, que c'est complètement autre chose, ça ne plus à rien. Enfin, c'est possible. On va
passer un petit coup de fil à Mr Thierry Olé dans quelques instants. Le temps de le faire, eh bien, on va écouter, hein, Georges, les Triple Scotch, c'est ça?
On va écouter Triple Scotch. Bon, un enregistrement toujours un peu moins de jazz classique. Je regardais la composition du CD. Sur 12 titres, il y a 4 titres de jazz classique. Et le reste, ce sont des morceaux plus connus du grand public. Et ça permet de renouveler un petit peu le style jazz. Là, j'ai choisi le morceau de U2. Il s'appelle « I still haven't found what I am looking for ».
Oh, bravo. Très bien.
Écoutez l'introduction à la basse.
C'est toi qui l'as faite ? Il n'est pas rigolo, Jean-Noël Barrault. Il ne boit pas une goutte.
Non.
Le petit piano là, justement, c'est
Thierry Olé.
C'est Thierry Olé, hein, Triple Scotch. En fait, Triple Scotch parce qu'ils sont trois musiciens, c'est un trio.
C'est un trio avec contrebasse, guitare et piano.
J'ai cru que c'était Triple Scotch parce qu'ils ne jouaient pas avant d'avoir bu trois scotch.
Trois triples
scotch. Trois triples scotch.
Ça fait neuf.
Ça fait neuf, ouais. Thierry Olé, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment ça va? Merci d'être avec nous et d'interrompre votre session en studio pour être avec nous à l'occasion de la sortie d'un CD, hein, c'est ça, hein?
Oui, absolument.
Oui, l'enregistrement de Triple Scotch a été fait dans le dernier trimestre 2012. Et je regardais la liste des titres et j'ai trouvé que en classique du jazz, il ne restait plus que trois titres et que le reste, c'était plus des morceaux de variété ou des morceaux plus connus du grand public. C'est un choix délibéré?
Ben oui, c'est un choix délibéré dans la mesure où finalement les jazzmen n'ont jamais fait autre chose que de reprendre les chansons plus ou moins à la mode de leur époque et puis de les adapter à un style plutôt jazz avec de l'improvisation, etc. quoi. Donc finalement, là, c'est un petit peu pareil. C'est pour ça qu'il y a un morceau de U2, voilà. Mais bon, jouer à la sauce Triple Scotch, voilà.
Ouais, d'ailleurs, le morceau de U2 passe en fond sonore, mais pendant une vingtaine ou une trentaine d'années, les musiciens de jazz jouaient uniquement les standards de jazz, c'est-à-dire les compositions des années 20, des années 30, quoi.
Oui, mais ça se vend plus.
Mais c'est un peu comme les œnologues. Les mecs qui font du vin aujourd'hui, ils sont obligés de se tourner un petit peu vers les demandes du public, tu comprends?
Mais oui, il faut vendre un peu. C'est pas tout faire, mais il faut que ça casse, quoi.
Le trio Triple Scotch fonctionne bien parce qu'il dure depuis une vingtaine d'années, mais vous avez eu quelques périodes où vous avez peut-être laissé courir un petit peu la musique.
Ah ouais, on a laissé le scotch plus rire.
Fondre avec les glaçons.
Voilà, exactement.
Et quel est votre Actualité actuellement, on vous retrouve au Classico à Toulouse assez régulièrement.
Ouais, assez régulièrement, mais pas que. On a pas mal de concerts sur Toulouse, autour de Toulouse. Nous jouerons par exemple au festival de jazz de Saint-Gaudens le 9 mai. Voilà, donc on se déplace pas mal.
Je sais que la semaine dernière, du tout au festival d'Andernos, c'était avec Triple Scotch ou une autre formation?
Non, c'était pas avec Triple Scotch, c'était avec Jambalaya, un orchestre d'ailleurs avec lequel je suis en studio en ce moment. Voilà.
Ah d'accord, vous faites une maquette. Jambalaya, c'est l'orchestre de...
On a enregistré un disque là, voilà.
C'est l'orchestre de José Haro.
David Perrou.
David Gayrou, d'accord, ok.
Voilà.
Et alors là, l'album qu'on écoute ce soir là, avec grâce à Georges dans cette émission, le titre c'est quoi?
Eh bien justement, il n'y a pas de titre en fait, c'est éponyme, voilà, c'est Triple Scotch et ça s'appelle Triple Scotch.
Alors il faut dire que sur la pochette il y a écrit, c'est une plage en noir et blanc, il y a écrit Triple Scotch en couleur, il y a trois chaises longues et il y a trois verres de scotch avec des glaçons et un qui a la particularité d'avoir une paille.
Ah.
Alors quel est le...
Mais c'est Thierry Olé parce que maintenant qu'il joue du piano comme ça il peut en même temps boire son scotch.
Dites-moi. C'est pas du tout moi, mais c'est le verre du contrebassiste Serge Ustiakine, puisqu'en plus d'être contrebassiste sur ce disque, il chante. Voilà. Alors il s'est octroyé le droit d'avoir une petite paille pour ingérer son scotch.
Alors, en tout cas, vous faites envie effectivement avec la couverture. Qu'est-ce qui intéresse le plus les programmateurs aujourd'hui, Thierry Olé, c'est de vous prendre sur une programmation justement purement jazz ou une programmation un peu décalée comme celle-là là de reprise de standard rock.
Alors, de toute façon, déjà sur cet album, il y a une compo et qui en amènera d'autres parce qu'on en joue maintenant pas mal dans notre répertoire. On a aussi d'autres standards, mais plutôt de la chanson pop, voire même du rock à notre répertoire. Et je pense que finalement, maintenant, aujourd'hui, faire venir les gens au jazz, pourquoi pas comme ça, par le biais de mélodies qu'ils connaissent et avec un son un petit peu original, parce que cette formule guitare contrebasse piano, qui était une formule relativement fréquente dans les années 40 et les années 50, c'est un petit peu perdu par la suite, et finalement retrouver ce son là et montrer qu'avec ce son là on peut jouer tout pratiquement, évidemment en réarrangeant tout ça, mais il se trouve que manifestement ça séduit pas mal les organisateurs à qui nous avons eu affaire jusqu'à maintenant. Voilà.
Merci Thierry Olé d'avoir été avec nous. On écoute le titre 6 de ce Triple Scotch. C'est justement la composition de Thierry Olé, Classicolypso. Merci d'avoir été avec nous sur CFM Radio dans Risque en Déguise.
Thierry, tu aurais pas écouté un peu Monty Alexander sur ce morceau?
Ah, il y a une question, ouais. Monty Alexander, il est pour rien sur ce morceau ou quoi?
Pardon?
Georges demande si tu aurais pas écouté un peu Monty Alexander pour l'élaboration de ce morceau.
Il y a certainement un petit peu de ça, bien évidemment. Genre, je connais mes goûts, donc oui, on peut le dire comme ça.
Merci Thierry Olé, on vous
bon Thierry.
Salut.
Au revoir.
Et alors après, on va faire une dégustation à l'aveugle.
À l'aveugle.
Et oui, parce que Christophe nous a emmené un petit vin.
Je m'interroge sur ce vin. J'ai envie d'avoir l'avis de spécialiste, ça tombe bien.
Allez, donc videz vos verres, parce que... Voilà.
Rincez-vous la bouche.
Très cerise.
Do
Voilà, donc ça s'appelle Classicalypso avec Thierry Ollet au piano, les amis de chez Triple Scotch, Thierry Ollet, Bernard Lara, Serge Oustiakin. Alors, la gastro.
Serions-nous gastrolâtres? C'est quoi gastrolâtre? Eh bien, c'est celui qui fait un dieu de son ventre, du grec gaster, ventre, et latreia, culte ou adoration. Ça a été, enfin, ça a été surtout mis en exergue par Rabelais, parce que le Moyen-Âge avait emprunté ce mot à la médecine grecque qui n'ignorait pas les débordements de la gourmandise. Alors, bon, c'est un mot aujourd'hui qui est un petit peu pédant, et bon, mais on peut dire « je suis gastrolâtre ». Jusqu'à ce que ça, c'est à peu près la même chose que Montaigne qui a fait le synonyme de l'art de la gueule. Eh ben gastrolâtre, c'est vraiment on aime bouffer et on en est fier et on le revendique.
Ah oui, être gastrolâtre, c'est
pourtant ça sonne comme une maladie.
Ouais, ça sonne voilà. Pas bien quoi.
Alors gastronome, on peut picorer, on peut choisir gastrolâtre, on bouffe tout. Non,
mais parce que dans
tout,
gastrolâtre, puis... t'as un peu latrine, un peu gastro quoi.
Ah non, ouais. Latria, ça veut dire
c'est un peu je me suis trompé.
Adoration. Ouais. Latrine, c'est pas ça vient pas du même mot. Là, c'est un mot grec, latreia qui veut dire le culte ou l'adoration. La latrine, c'est pas l'adoration de l'écran. Point point.
À suivre dans Qu'est-ce qu'on déguste ? Une dégustation à l'aveugle, l'œnologue de la cave.
Pas sur le grill.
Sera-t-il à la hauteur ? Attention, dans quelques minutes.
CFM. CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Alors, un petit peu de Tarani, un petit peu d'Inès, un petit peu d'Astrolabe. Et puis
un
maintenant,
petit
un petit peu
sans
de
étiquette,
Passion. Là, c'est voilà. Passion Vinovali.
Oui, oui. Il a eu une médaille d'or, je crois qu'il était le seul. Donc,
qui a eu une médaille d'or ?
Ouais, non, il était le seul dans la catégorie.
Oh, c'est pas vrai. Il n'aime pas le bois.
Il n'aime pas
le
bois.
Il le dit
en permanence.
Eh ben, mais oui, mais tu n'es pas non plus Dieu.
Dans ces cas-là, tu dois rester neutre.
Oh ben, pas du tout. C'est une connerie de rester neutre. Donc, je dis, j'aime
pas
le bois.
Parce que le bois est presque fondu.
Presque.
Tu sens surtout la vanille.
Oh ben, et à part ça, il est vachement fondu.
Je trouve ça la vanille, tu sens pas le bois.
Ouais.
C'est pas du vrai.
Non, qu'est-ce qu'on déguste ? Il nous reste 25 minutes à passer ensemble. Christophe nous propose une dégustation à l'aveugle. C'est important. En fait, voilà, il a acheté une petite série de bouteilles. Il a fait son trader et il voudrait savoir si il a fait un bon investissement. Donc, on va soumettre cette bouteille dont l'étiquette est cachée aux illustres dégustateurs qui sont autour de cette table.
Allez, on attaque.
Et donc, j'en fais partie. Hein, donc, d'abord,
ton verre,
d'abord je rince.
Ah ouais, non, mais avec le bois.
Ouais, mais ça, la Syrah et le bois, ça va pas être simple.
Non,
hein.
Non, rince avec autre chose.
Ensuite, tout à l'heure, on parlera avec Christophe, toujours... Gonzaï, des fées, des frics, du fun, des frics, des monstres, du fun. Gonzaï, ça me fait penser un petit peu à Gonzo,
ça,
donc ce journalisme impliqué.
D'investigation totale, immersion totale. Événements. C'est inspiré voilà. Ouais, du Gonzo.
Ça va me plaire, je suis sûr. Alors, les verres se remplissent. Hop, je passe la bouteille à notre invité, responsable produit de chez Vinovali, Jean-Noël Barraud. Et nous faisons tourner. Alors Pascal, est-ce que tu nous parles, déjà parle-en nous un petit peu de ce vin.
Là,
pour toi, tu nous parles juste du visuel.
Il commence à tuiler un peu, il commence à avoir des reflets orange clair, donc peut-être pas trop récent, c'est pas un vin de l'année, c'est pas un perdreau de l'année en tout cas.
Hein. Ingrid, vous nous parlez du nez?
Alors. C'est difficile après ce voilà. Le nez, qu'est-ce que j'ai au nez?
Ah ben oui, on a les verres remplis de bois là, c'est
Alors.
C'est
ça,
hein. C'est prenant, hein. Ça s'infiltre c'est presque pas, dans le verre.
C'est pas à toi de parler, c'est à Ingrid de parler. Ah
oui, moi, j'ai un nez plutôt fruits confits. Voilà.
Griotte, même fruits compotés.
On peut pas s'empêcher de parler.
Compoté, oui. Hein,
il est bavard.
Hein, t'as vu? Et voilà. Et alors, pour
il
le goût.
Une bonne descente, il est bavard.
pour le goût, je te demande de te taire et de laisser Jean-Noël.
Je l'ai pas goûté.
De laisser Jean-Noël Barraud nous en parler.
C'est du vin.
C'est un vin rouge. En bouche, alors, autant au nez, il y a un petit nez, c'est vrai, effectivement, de fruits à l'alcool, cerise, griotte, mûr, un peu, des fruits plutôt mûrs. En bouche, on s'attend à les retrouver, on a du mal à les retrouver. Un poil de sécheresse, d'agressivité en finale. Moi, je dirais que le nez est plaisant, fin. Après, en bouche, ça manque un peu de densité aromatique. Et la bouche est un petit peu sur la sécheresse. Ça veut dire que c'est un vin qui est un peu évolué.
Il est pas récent.
Non, c'est pas un vin de l'année. C'est un vin qui est un peu évolué et qui a perdu de son fruité, voilà.
Pas madérisé, hein.
Non, pas madérisé.
Il est encore bien.
Et alors, ce serait quoi?
Pour faire un civet, c'est parfait, ça. Faut pas le boire. Alors, raconte-nous l'histoire.
Pas encore. Non, il faut savoir ce que c'est avant qu'il nous raconte l'histoire. Après, il nous la racontera. D'abord, on doit deviner.
C'est un vin du sud-ouest, moi j'y
sens. Ouais, moi j'y sens pas de bois. Ça serait, moi je verrais ça plutôt. Peut-être Bergerac, ça pourrait être genre Bergerac ou un truc comme ça.
C'est sûr que c'est un vin du sud-ouest.
Ouais.
Enfin, pour moi, c'est un vin du sud-ouest.
Ouais.
Alors, un vin du sud-ouest pour Jean-Noël Barraud.
Après, on va zoomer après.
Bergerac, c'est dans le sud-ouest, jusque-là, ouais. Tout va bien.
Georges, ça me semblerait quelque chose comme ça.
C'est un vin du sud-ouest.
Ingrid.
Mais moi, je serais allé sur Bordeaux.
Ouais, peut-être Bordeaux aussi.
Ingrid va sur Bordeaux. Ouais.
Entre Bergerac, Bordeaux.
En tout cas, dans la région bordelaise.
Vous aussi, hein, de l'autre côté du poste, dites-le nous. Hein.
ça peut être du Bordeaux. Il n'y a pas de bois quand même. Ou j'en sens pas.
Alors.
Non, il n'y a pas
de bois.
Il n'y a pas beaucoup de bois.
Qui c'est qui a dit un code du Marmandais?
Non, pour moi, c'est un vin du sud-ouest. Après, il n'y a pas des caractéristiques vraiment faciles à.
C'est par là.
Avant d'essayer d'aller plus loin dans la géographie du vin, est-ce qu'il est plaisant? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que c'est un vin que vous seriez content de trouver sur votre table? Est-ce qu'il est plaisant ce vin?
Le point de vue du consommateur, oui, je pense que ça peut plaire. Il y a un mangeant, par contre. Voilà. À l'apéritif, il est peut-être un peu difficile.
Ouais.
Un peu asséchant.
Non, asséchant.
La différence entre asséchant et astringent, s'il vous plaît.
Ah, la différence, c'est la qualité et la quantité des tanins. Et ça se sent sur les gencives. Si vous avez les gencives qui collent, c'est astringent.
Alors c'est astringent pour moi, hein, parce que moi j'ai les gencives.
Non, mais ça c'est l'accumulation de ce que vous avez vu.
C'est différent. J'ai les dents du fond qui baignent.
Ouais, ce vin-là est plutôt asséchant. La sécheresse ou la santé, juste après avoir avalé, ça vous assèche le fond de la langue, en fait. Et ça, c'est lié à la qualité des tanins. C'est pas la quantité, ça, c'est la qualité.
La qualité des tanins.
Voilà. Ou alors un vin qui a été gardé trop longtemps et qui évolue.
Je pense qu'il est vieux.
Oui.
Je pense qu'il est vieux de par sa couleur. Oui, oui. Donc il commence à décrépir un peu comme moi. Tu vois, un peu sur la pente savonneuse.
Est-ce qu'il radote du coup?
Oui, si. Sur la pente savonneuse. Donc il ne faut pas le garder encore 10 ans.
Ingrid.
Moi j'aurais dit que c'était un vin ouais, qui a peut-être une dizaine d'années quoi.
Bon, un Bordeaux d'une dizaine d'années, est-ce qu'on peut cibler mieux sur un Bordeaux particulier, une région une appellation particulière
On chipote.
Ouais. Mais bon, on est là pour s'amuser en même temps. Hein,
on essaye.
Allez.
Bordeaux Sup ou.
Allez, Georges, lance-toi.
Allez, Bordeaux Sup.
Un Bordeaux Sup. Bordeaux Sup, ça veut dire supérieur.
Supérieur.
Ça. D'accord. Ah, oui. J'en profite de cette petite parenthèse pour dire que la semaine prochaine, nous dégusterons des Bordeaux et des Bordeaux Sup, puisqu'on va se faire envoyer une caisse. De Bordeaux à l'occasion de l'opération Bordeaux-Neige. Alors tu me diras pourquoi ils nous envoient une caisse de Bordeaux alors qu'ils vont faire des dégustations à la neige. C'est parce que je leur ai demandé. Et donc ils sont sympas, ouais. Ils vont nous en envoyer une caisse.
Et on mangera du cochon.
Ils envoient la neige aussi.
Hein?
Ils envoient la neige.
Ils envoient pas la neige. Mais par contre, on va
manger. Du cochon aussi, cochon bio.
Ça va être terrible la semaine prochaine.
De Cahors, là, du Lot.
Mais ça va être terrible ça.
Ah oui, ça va être très très bon.
La semaine prochaine, là,
on va s'exploser.
Alors.
On va être gastrolâtre en diable.
Ah, c'est clair. Donc, on est bon là pour un Bordeaux. Allez, il faut enchaîner parce que sinon.
Moi, j'irais sur un Marmandais. Marmandais,
Bergerac.
Bah, allez, pour dire un code de Blaye.
Moi, je reste sur Bordeaux.
Et Bordeaux. Alors réponse l'histoire. Avec l'histoire de ce vin. Attention, jingle.
C'est du Sidouraï.
C'est du vin.
Je rappelle que l'idée, c'est de savoir, hein, de pouvoir donner une réponse claire à Christophe. Allez.
C'est mon beau-père qui a acheté des caisses de ce vin. Et quand on l'a goûté, on l'a pas trouvé. Franchement bon, et on se demandait si correspondait vraiment à l'étiquette. Comme il y avait des histoires un peu de trafic de vin, etc. Mais bon, ça correspond.
Alors, Ingrid, qu'est-ce que c'est?
Et Georges, je dévoile l'étiquette. La lande de Pomerol, donc Bordeaux supérieur.
2006.
De 2006, donc c'était bien vin ancien, c'était bien.
Tourne la. Hop.
Oh, ben ça, il faut le passer en sauce.
Non, il faut le boire. Hein.
Oh, ça se boit.
Il faut le boire. Mais en même temps, tu fais une bonne daube avec. Donc, une bouteille dans la daube ou dans le bœuf mode, et deux bouteilles à table. Le stock, il va filer rapide.
Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est ce qu'il faut remarquer là, c'est que l'étiquette, ça doit juste attirer l'œil. Ce qui est important, c'est ce qu'on sent et c'est ce qu'on goûte. Donc, même si l'étiquette, elle est jolie et qu'elle a un beau nom, ou qu'elle vous plaît tout simplement, même si le nom vous plaît pas, mais si vous êtes attiré, ça fait partie de l'acte d'achat. Mais après, il faut valider ça en le goûtant, et en goûtant des grandes appellations, on peut être déçu, tout comme en goûtant des petites appellations, on peut être enchanté. Il suffit juste de faire appel à ses sens et à déguster.
Faut pas acheter l'étiquette.
Il faut essayer de ne pas acheter l'étiquette. Après,
le problème autour des tables, quand en fonction des invités que l'on a, ce sont les étiquettes qu'il faut.
On parlait des médailles, ce qui était un petit peu le sujet de notre venue, et les médailles, ça aide en fait le consommateur à s'orienter. Et en théorie, les vins médaillés sont censés être des vins qui apportent du plaisir et qui ont été primés par un jury de consommateurs et de techniciens, donc de connaisseurs. Voilà. Donc une étiquette, ça reste une étiquette, il faut faire confiance à ses sens, qu'on soit un expert ou pas du vin, il n'y a pas d'expert dans le vin. Tout consommateur maîtrise ses propres sens et expert de son goût. Tout à l'heure, monsieur disait que c'était trop boisé, c'est une opinion, c'est un goût, c'est hédoniste.
C'est mon opinion,
son propre dictionnaire donc, aromatique.
Ouais, exactement, il n'y a pas de vérité dans le vin, d'ailleurs nulle part, il y a rarement de vérité.
Il faut rester humble devant le vin d'ailleurs, chaque dégustation.
C'est la règle de la dégustation, je crois, l'humilité.
Mmh. En tout cas, ça correspond donc à Ingrid et Georges ont trouvé. Donc, impeccable. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arnaque phénoménale.
Il n'y a pas une grosse arnaque. Il y a. Non, après, ça dépend.
Après, je ne sais pas à quel prix il a acheté.
Ça dépend combien il a acheté. Ouais, c'est du vin bon.
Par contre, il faut le boire maintenant.
Voilà, il ne faut pas, attendre 10 ans.
Peut-être ils ont trop attendu pour le vendre ou pour le.
Ouais, parce qu'il a acheté il y a quelques mois.
Ah oui,
Bouchon.
Eh ben écoute, il faut qu'il fasse une grande fête pour qu'on en boive plein. Voilà. C'est tout, il nous invite quand il veut.
Mmh.
J'ai dans mes mains un nouveau magazine, ça s'appelle Gonzai. Le numéro 1 vient de paraître en janvier 2013. C'est quoi? C'est un mensuel? C'est un trimestriel? C'est quoi?
C'est un bimensuel.
Un bimensuel.
Bimestriel.
Un bimestriel, tous les deux mois.
Tous les deux mois. Tous les deux mois.
Tous les deux mois.
Enfin du nouveau de la presse française, qui est plutôt moribonde ces temps-ci. Gonzai est sorti depuis un mois. À la base, c'est un site web anticonformiste, gonzai.com, où les découvertes musicales côtoient des portraits décalés, des infos plus ou moins absurdes. Et pourquoi Gonzai, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, ils font bien sûr référence au journalisme Gonzo, dont je vous ai parlé plusieurs fois.
Que tu adores.
Voilà. Initié
Thompson.
Exactement. Ce journalisme de terrain, sans limite, qui immerge le journaliste dans le milieu sur lequel il enquête. Et les uluberlus de Gonzai, Bester, Johnny Jett, Bob le Flambeur, mais aussi Benoît Sabatier, qui est un ancien de Technicart, et d'autres réussissent leur tour de force. Ils ont fait un magazine bien foutu, avec du contenu, des reportages, des fiches névroses. À la place des fiches cuisine, ce sont des fiches névroses.
Ça
où des célébrités donnent toutes leurs névroses. Des faits divers terribles, des portraits de branquignoles de partout. Il n'y a pas de pub, il y en a juste une en dos de couverture. Il y a des pubs détournées, par contre, à l'intérieur du magazine. Mais il ne faut pas chercher ce magazine en kiosque, il passe par une voie alternative. Ils ont décidé de vendre ce magazine via leur site web, via des souscriptions. Vous recevez le journal par voie postale. Il y a une distribution via des magasins de fringues ou des disquaires aussi. On m'a acheté le mien, par exemple, à Toulouse, chez Croc Vinyl, le célèbre magasin de disques. Et dans ce numéro, il y a notamment un gros dossier sur les Français fous des États-Unis, avec pas mal de parallèles entre des chanteurs français style Dick Rivers et leur homologue américain. Et après, bon, il y a tout un tas de reportages intéressants.
Dick Rivers. Alors dedans, j'y trouve par exemple un article intitulé Paul Williams. Pourquoi Paul Williams a-t-il arrêté sa carrière d'orang-outan ? Paul Williams est un des acteurs de la célèbre
la planète des singes.
La planète des singes, voilà. Enfin, c'était un mec caché derrière la planète derrière le costume de la planète des singes.
C'est des infos plutôt absurdes.
On a une double page 24 heures avec Rachita où on voit que
Rachita.
Il a mangé Rachita, hein, quand même. Et puis pas que.
Mais là, il commence la soirée à 20h, il arrête le dimanche à 17h, donc quand même.
Rachita n'a jamais rien fait comme tout le monde, boudé par les radios, censuré par l'obscure manipulation politicienne, compagnon de jeu de Mike Jones. Il est aussi ce fêtard inépuisable que j'ai vu pendant 24 heures sans dormir. Bravo, bravo, Rachita. Quand t'as déjà essayé d'interviewer Rachita, moi je l'ai fait.
Rachita Tati.
Oui, c'est pareil. Oui,
ouais,
c'est...
Mais il est quand même bon, quoi.
Ah oui, non, mais il est super bon, mais c'est des fois.
Il tient la route quand même. Parce que quand même, depuis carte de séjour, ça fait quand même un bail. Hein.
Ah, c'est
mais
sûr.
Il est pas mort déjà, c'est pas mal.
Ah oui.
Oui, c'est sûr. C'est sûr.
Encore.
Pour sa vie.
Ça ne devrait pas trop tarder non plus. Hein.
Gonzai, en tout cas, un magazine que je vous recommande. Pour une fois, c'est du sérieux de la presse française.
Et qu'est-ce qu'on écoute, du coup ?
Tame Impala, un extrait de leur second album que j'ai découvert justement grâce au site web gonzai.com, des Australiens fous de rock psychédélique.
Alors ça, si on en boit deux verres, on est sous quoi. Faire attention quand même hein, à la dégustation. À la vôtre.
C'est l'Astrolabe 2010, Négrette.
Chin.
Mais c'est bon. Non,
merci. Non, mais moi, la Négrette, je suis fan. Ah. Tu sais que le Château Bellevue-la-Forêt aussi a eu une médaille d'or. Oui, j'aime beaucoup le Château Bellevue-la-Forêt.
Le Rosé d'Arbon.
Rosé. Hein?
Arbo a eu la médaille d'or sur le rosé.
Sur un rosé. Bah, il y a eu pas mal de médailles d'or cette année sur Fronton.
Et Saint-Louis?
Bah, Saint-Louis, il a rien présenté.
Il n'a pas présenté.
Yeah.
Après avoir bu un peu de vin rouge, il est bon de planer avec nos amis de Tame Impala et leur rock psyché.
Bon Ingrid, il doit y avoir des changements, des bouleversements, je ne sais quoi. Je ne sais ce qui se passe à Vinovali au niveau du marketing et de la publicité, mais votre site internet n'est pas à jour.
On est en train de le refaire.
Eh ouais,
c'est
ouais, non,
pour ça.
Je tiens à le dire parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui du coup vont aller taper Vinovali dans Google et ils vont arriver sur votre site internet et ils vont... les dernières actualités, c'est les vendanges 2012, c'est...
Non, je sais pas, c'est le concert de John, c'était...
C'est, ouais, voilà, bon, enfin, t'en sors plus. Si t'essayes de trouver... Trouver les vins qu'on propose ici, je suis pas sûr qu'on les trouve parce que enfin voilà. Donc mise à jour.
Nous sommes en train de refaire le site internet et nous venons de lancer donc le Facebook de Vinovali tout début janvier.
Ouais, il y a 200 amis. Like. Mais je crois que j'ai
liké. C'est déjà pas mal.
Like. T'as liké toi?
Yes. C'est le tout début, donc j'ai je trouve liké. Que en un mois, voilà, allez, en deux mois, 200 amis, c'est pas mal.
D'accord. Mais c'est ce qu'on a mis d'ailleurs sur Facebook aujourd'hui. J'ai piqué votre photo de votre Facebook pour pouvoir annoncer un petit peu l'émission.
Petite question là sur les vins, alors plutôt Rabastens puisqu'on est plus sur Rabastens là, sur le bio, les choses comme ça, ça c'est une tendance ou c'est pas du tout, c'est
ils
complètement ignoré? Vous en foutez complètement.
Tu commences à l'agacer.
J'en finis.
Il reste 5 minutes alors j'essaye.
Non, ça en fout pas du tout. Le bio sur les caves de Vinovali, notamment Rabastens et Côte d'Olt, il y a un producteur par cave qui est en bio. C'est une démarche qui a été commencée il y a quelques années et c'est un marché sur lequel on va essayer d'être présent de plus en plus.
Ma pétate.
Sachant que c'est un marché qui se développe sans forcément. En fait, on observe un léger tassement en ce moment, voilà, sur ce marché.
Ah ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde.
Bah, en fait, il se dit beaucoup de choses. Quand on regarde les chiffres, effectivement, ça représente quand même. Voilà, enfin, il y a beaucoup de monde. En volume, non. Au final, il y a pas vraiment beaucoup de volume encore. Mais c'est un marché qui, de toute façon, est amené à se développer. Donc, Vinovali, oui, est présent sur le marché du bio.
Donc, vous avez à la cave de Rabastens une cuve bio pour accueillir un vigneron ou deux bio.
On met une organisation en place pendant les vendanges pour gérer la vinification séparée de la propriété de cet adhérent qui a une quinzaine d'hectares et qui est en bio, qui a été d'ailleurs, et la cave a été certifiée et lui aussi l'an passé. Donc on a notre première cuvée bio cette année sur le millésime 2012 à AOC Gaillac.
Ah bon,
on goûtera.
Ah bah oui, et il sortira d'ailleurs. Ingrid peut me parler mieux que moi. Il va sortir dans le courant de l'année. On est sur la partie étiquette, bouteille,
voilà,
habillage,
voilà. À la partie marketing.
Mais vous êtes bon là-dessus.
Bien sûr.
Sauf sur le site
internet. On est bon sur le marketing, mais sur le verre aussi quand même.
On voit des bulles.
Moi, quand je vais pas me planter, je l'ai déjà dit souvent à ce micro, quand je vais pas me planter, j'emmène un Tarani ou un Astrolabe. Mais pas le Tarani rouge, parce que question de goût.
Question de goût, oui.
Mais par contre, l'Astrolabe, n'importe lequel. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ce gage de confiance sur la constance, quoi.
C'est l'objectif qu'on a, c'est d'avoir des vins de qualité régulière et fiable. Et répétable, forcément. Et c'est toute la maîtrise, en fait, du travail de Vinovali. De réussir à avoir des produits stables.
Et tout ça, au milieu de ces affaires de l'agroalimentaire qui se dessinent tous les jours, vous faites un produit qui est sain aujourd'hui à Vinovali, dans toutes vos caves, ou qui n'est pas chargé en pesticides et autres, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, hormones.
Jean-Noël pourra mieux le confirmer que moi, mais en tout cas, on travaille en agriculture raisonnée.
Ça, c'est de la connerie, enfin, c'est de la couille en vrac, ça. Agriculture raisonnée, ça veut tout dire et rien dire.
Bah, ça veut dire que tu passes pas 15 fois par jour en préventif.
De toute façon, le vigneron a tout intérêt à limiter ses traitements, ne serait-ce qu'au niveau économique. Au niveau économique et également au niveau du respect de la plante, etc.
Ça, il s'en fout, c'est les coûts qui l'intéressent.
C'est un débat qui dépasse la viticulture, en fait, tout ça. Donc si on peut en parler, ça peut être très long. L'agriculture en général est soumise à des contraintes de productivité, de toute façon, et c'est pas lié à une production en particulier. Donc il y a des problèmes et des problématiques. Il faut quand même savoir que les professionnels et les techniciens du monde de la production ont ça en tête et essayent Bon, il y a un intérêt économique et aussi un intérêt forcément environnemental et de santé publique. Donc il y a, de toute façon, ça fait partie aujourd'hui des paramètres qu'on prend en compte dans notre travail. Et vous le balayez en disant...
c'est la connerie. Les vignerons, ils sont sensibles.
Ben, c'est leur santé en premier. Hein. Je veux
dire, quand les agriculteurs commencent à mourir de leucémie ou de cancer généralisé après avoir traité du tournesol pendant 25 ans.
On arrive au bout.
Oui, voilà. Ouais. Ah,
c'est merci de finir cette émission sur une touche aussi gay. Je suis content. Qu'est-ce qu'on déguste tellement bien.
Parlons quand même du hum qu'on est en train de goûter.
On finit sur des bulles. C'est quoi ces bulles?
Ça, c'est du Mozac. Mozac, méthode gaillacoise. Donc ça, c'est spécifique au vignoble de Gaillac. Beau produit élaboré par la cave de Técou et qui a été médaillé
Ça marche super bien.
Ça permet d'alléger un petit peu la dégustation assez quantitative qu'on a fait aujourd'hui. C'est pas mal. On finit sur une note de légèreté.
Ça dégraisse. Nous on dit ça dégraisse.
Parce que là on n'a rien fait. Mais je reviendrai avec plaisir.
Juste le cépage du
Le Mozac. Avec une voilà caractéristique aromatique qui est la pomme.
Belle petite étiquette violette, grise et noire. Qui sort à combien?
Qui sort à 9,10 €.
Qu'on achète directement à la cave de Rabastens.
On peut acheter directement à la cave dans tous nos caveaux.
Mais on en a déjà
et on les retrouve chez le caviste dans la région.
Mais comment veux-tu que j'ai pas la mémoire courte avec tout ce qu'on boit?
Chez les cavistes et chez les restaurateurs.
Merci Ingrid.
Avec plaisir.
Ils vont pas finir cette émission.
Jean-Noël Barraud, directeur produit œnologue à la cave de Rabastens. Ingrid Dosat étaient nos invités aujourd'hui. Merci.
Merci et bravo.
Merci. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous nous intéresserons au vin de Bordeaux et au
cochon noir bio.
Ça risque d'être quelque chose.
Ça va être bon, ça.
Voilà. Je vous souhaite de passer un bon week-end et qu'il ait commencé pour vous aussi bien qu'il vient de se commencer pour nous. Bonne soirée.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons de Vali.